Les possédés, première partie, chapitre 4. La boiteuse. 1. Chatoff ne fit pas la mauvaise tête et, conformément à ce que je lui avais écrit, alla à midi chez Elisabeth Nikolaïevna. Nous arrivâmes presque en même temps, lui et moi. C'était aussi la première fois que je me rendais chez les dames Drozdov. Elles se trouvaient dans la grande salle avec Maurice Nikolaïevitch, et une discussion avait lieu entre ces trois personnes au moment où nous entrâmes. Praskovy Ivanovna avait prié sa fille de lui jouer une certaine valse. Elisa s'était empressée de se mettre au piano. Mais la mère prétendait que la valse jouée n'était pas celle qu'elle avait demandée. Maurice Nikolaïevitch avait pris parti pour la jeune fille avec sa simplicité accoutumée et soutenait que Praskovy Ivanovna se trompait. La vieille dame pleurait de colère. Elle était souffrante et marchait même avec difficulté. Ses pieds étaient enflés, ce qui la rendait grincheuse. Aussi, depuis quelques jours, ne cessait-elle de chercher Noise à tout son entourage, bien qu'elle eût toujours une certaine peur de Lisa. On fut content de nous voir. Elisabeth Nikolaïevna rougit de plaisir, et, après m'avoir dit merci, sans doute parce que je lui avais amené Chatoff, elle avança vers ce dernier en l'examinant d'un œil curieux. Il était resté sur le seuil, fort embarrassée de sa personne. Elle le remercia d'être venu, puis le présenta à sa mère. « C'est Monsieur Chatoff dont je vous ai parlé, et voici Monsieur G., un grand ami à moi et à Stepan Trofimovitch. Maurice Nikolaïevitch a aussi fait sa connaissance hier. « Lequel, professeur ?»«
Mais ni l'un ni l'autre, maman. »
« Si fait, tu m'as dit toi-même qu'il viendrait un professeur. Ce doit être celui-ci, » fit Praskovy Ivanovna en montrant Chatoff avec un air de mépris. « Je ne vous ai jamais annoncé la visite d'un professeur. M.G. est au service et M. Chatoff est un ancien étudiant. Étudiant, professeur, c'est toujours de l'université. Il faut que tu aies bien envie de me contredire pour chicaner là-dessus. » Mais celui que nous avons vu en Suisse avait des moustaches et une barbiche. Maman veut parler du fils de Stepan Trofimovitch. Elle lui donne toujours le nom de professeur, dit Lisa, qui emmena Chatoff à l'autre bout de la salle et l'invita à s'asseoir sur un divan. Quand ses pieds enflent, elle est toujours ainsi. Vous comprenez, elle est malade, ajouta à voix basse la jeune fille, en continuant à observer, avec une extrême curiosité, le visiteur, dont l'épi de cheveux attirait surtout son attention. « Vous êtes militaire ?» me demanda la vieille dame, avec qui Lisa avait eu la cruauté de me laisser en tête à tête. « Non, je sers... »« Monsieur G. est un grand ami de Stepan Trofimovitch !» se hâta de lui expliquer sa fille. « Vous servez chez Stepan Trofimovitch ? Mais il est aussi professeur ? Ah, maman, vous n'avez que des professeurs dans l'esprit. Je suis sûre que vous en voyez même en rêve !» cria Lisa impatientée. « C'est bien assez d'en voir quand on est éveillé. Mais toi, tu ne sais que faire de l'opposition à ta mère. Vous étiez ici il y a 4 ans, quand Nicolas Vsevolodovitch est revenu de Pétersbourg. » Je répondis affirmativement. Il y avait un Anglais parmi vous ?
Non, il n'en avait pas.
Lisa se mit à rire. Tu vois bien qu'il n'y avait pas du tout d'Anglais. Par conséquent, ce sont des mensonges. Barbara Petrovna et Stepan Trofimovitch mentent tous les deux. Du reste, tout le monde ment. Ma tante et Stepan Trofimovitch ont trouvé chez Nicolas Vsevolodovitch de la ressemblance avec le prince Harry, mis en scène dans le Henri IV de Shakespeare, et maman objecte qu'il n'y avait pas d'anglais, nous expliqua Lisa.
Puisqu'il n'y avait pas de Harry, il n'y avait pas d'anglais. Seul Nicolas Vsevolodovitch a fait des Froden.
Je vous assure que maman le fait exprès,
crut devoir observer la jeune fille en s'adressant à Chatov. Elle connaît fort bien Shakespeare. Je lui ai lu moi-même le premier acte d'Othello. Mais maintenant, elle souffre beaucoup, maman. Entendez-vous ?
Midison, il est temps de prendre votre médicament.
Le docteur est arrivé, vint annoncer une femme de chambre.
Zemirka, Zemirka, viens avec moi,
cria Praskovy Ivanovna en se levant à demi.
Au lieu d'accourir à la voix de sa maîtresse, Zemirka, vieille et laide petite chienne, alla se fourrer sous le divan sous lequel était assise Elisabeth Nikolaïevna.
Tu ne veux pas ? Eh bien, reste là. Adieu, Batouchka. Je ne connais ni votre prénom, ni votre dénomination patronymique,
me dit la vieille dame.
Antoine Lavrentievitch.
Peu importe, ça m'entre par une oreille et ça sort par l'autre.
Ne m'accompagnez pas, Maurice Nikolaïevitch. Je n'ai appelé que Zemirka. Grâce à Dieu, je sais encore marcher seule, et demain j'irai me promener.
Elle s'en alla fâchée.
Antoine Lavrentievitch, vous causerez pendant ce temps-là avec Maurice Nikolaïevitch.
Je vous assure que vous gagnerez tous les deux à faire plus intimement connaissance ensemble, dit Lisa. Et elle adressa un sourire amical au capitaine d'artillerie, qui devint rayonnant lorsque le regard de la jeune fille se fixa sur lui. Faute de mieux, force me fut de dialoguer avec Maurice Nikolaïevitch.
II. À ma grande surprise, l'affaire qu'Elisabeth Nikolaïevna avait à traiter avec Chatov était, en effet, exclusivement littéraire. Je ne sais pourquoi, mais je m'étais toujours figuré qu'elle l'avait fait venir pour quelque autre chose. Comme il ne se cachait pas de nous et causait très haut, nous nous mîmes, Maurice Nikolaïevitch et moi, à écouter leur conversation. Ensuite, ils nous invitèrent à y prendre part. Il s'agissait d'un livre qu'Elisabeth Nikolaïevna jugeait utile et que, depuis longtemps, elle se proposait de publier. Mais, vu sa complète inexpérience, elle avait besoin d'un collaborateur. Je fus même frappé du sérieux avec lequel elle exposa son plan à Chatov.
« Sans doute elle est dans les idées nouvelles, » pensais-je. « Ce n'est pas pour rien qu'elle a séjourné en Suisse. »
Chatov écoutait attentivement, les yeux fixés à terre, et ne remarquait pas du tout combien le projet dont on l'entretenait était peu en rapport avec les occupations ordinaires d'une jeune fille de la haute société. Voici de quel genre était cette entreprise littéraire. Il paraît chez nous, tant dans la capitale qu'en province, une foule de gazettes et de revues qui chaque jour donnent connaissance d'une quantité d'événements. L'année se passe, les journaux sont entassés dans les armoires, ou bien on les salit, on les déchire, on les fait servir à toutes sortes d'usages. Beaucoup des incidents rendus publics par la presse produisent une certaine impression et restent dans la mémoire du lecteur, mais avec le temps, ils s'oublient. Bien des gens plus tard voudraient se renseigner, mais quel travail pour trouver ce que l'on cherche dans cet océan de papier imprimé ! D'autant plus que, souvent, on ne sait ni le jour, ni le lieu, ni même l'année où l'événement s'est passé. Si pour toute une année on rassemblait ces divers faits dans un livre, d'après un certain plan et une certaine idée, en mettant des tables, des index, en groupant les matières par mois et par jour, un pareil recueil pourrait, dans son ensemble, donner la caractéristique de la vie russe durant toute une année, bien que les événements livrés à la publicité soient infiniment peu nombreux en comparaison de tout ce qui arrive. Au lieu d'une multitude de feuilles, on aura quelques gros volumes, voilà tout, observa Chatov. Mais Elisabeth Nikolaïevna défendit son projet avec chaleur, nonobstant la difficulté qu'elle avait à s'exprimer. L'ouvrage, assurait-elle, ne devait pas former plus d'un volume, et même il ne fallait pas que ce volume fût très gros. Si pourtant on était obligé de le faire gros, du moins il devait être clair. Aussi, l'essentiel était-il le plan et la manière de présenter les faits. Bien entendu, il ne s'agissait pas de tout recueillir. Les ukases, les actes du gouvernement, les règlements locaux, les lois, tous ces faits, malgré leur importance, ne rentraient pas dans le cadre de la publication projetée. On pouvait laisser de côté bien des choses et se borner à choisir les événements exprimant plus ou moins la vie morale de la nation, la personnalité du peuple russe à un moment donné. Sans doute, rien n'était systématiquement exclu du livre. Tout y avait sa place. Les anecdotes curieuses, les incendies, les dons charitables ou patriotiques, les bonnes ou les mauvaises actions, les paroles et les discours, à la rigueur même, le compte-rendu des inondations et certains édits du gouvernement, pourvu qu'on prît seulement dans tout cela ce qui peignait l'époque. Le tout serait classé dans un certain ordre, avec une intention, une idée éclairant l'ensemble du recueil. Enfin, le livre devait être intéressant et d'une lecture facile, indépendamment de son utilité comme répertoire. Ce serait, pour ainsi dire, le tableau de la vie intellectuelle, morale, intérieure de la Russie pendant toute une année. « Il faut, acheva Lisa, que tout le monde achète cet ouvrage, qu'il se trouve sur toutes les tables. Je comprends que la grande affaire ici, c'est le plan. Voilà pourquoi je m'adresse à vous. » Elle s'animait fort, et quoique ses explications manquassent souvent de netteté et de précision, Chatov comprenait. Alors, ce sera une œuvre de tendance? Les faits seront groupés suivant une certaine idée préconçue? Murmura-t-il sans relever la tête. Pas du tout. Le groupement des faits ne doit accuser aucune tendance. Il ne faut tendre qu'à l'impartialité. Mais la tendance n'est pas un mal, reprit Chatov. D'ailleurs, il n'y a pas moyen de l'éviter du moment qu'on fait un choix. La manière dont les faits seront recueillis et distribués impliquera déjà une appréciation. Votre idée n'est pas mauvaise. « Ainsi, vous croyez qu'un pareil livre est possible ?» demanda Lisa toute contente. « Il faut voir et réfléchir. C'est une très grosse affaire. On ne trouve rien du premier coup et l'expérience est indispensable. Quand nous publierons le livre, c'est tout au plus si nous saurons comment il faut s'y prendre. On ne réussit qu'après plusieurs tâtonnements, mais il y a là une idée utile. » Lorsque enfin il releva la tête, ses yeux rayonnaient, tant était vif l'intérêt qu'il prenait à cette conversation. « C'est vous-même qui avez imaginé cela ? » demanda-t-il à Lisa d'une voix caressante et un peu timide. Elle sourit. « Imaginer n'est pas difficile, le tout est d'exécuter. Je n'entends presque rien à ces choses-là et ne suis pas fort intelligente. Je poursuis seulement ce qui est clair pour moi. Vous poursuivez ? Ce n'est probablement pas le mot, questionna vivement la jeune fille. N'importe, ce mot-là est bon tout de même. Pendant que j'étais à l'étranger, je me suis figuré que je pouvais moi aussi rendre quelques services. J'ai de l'argent dont je ne sais que faire. Pourquoi donc ne travaillerais-je pas comme les autres à l'œuvre commune ? L'idée que je viens de vous exposer s'est offerte tout à coup à mon esprit. Je ne l'avais pas cherchée du tout, et j'ai été enchantée de l'avoir. Mais j'ai reconnu aussitôt que je ne pouvais me passer d'un collaborateur, attendu que moi-même je ne sais rien. Naturellement, ce collaborateur sera aussi mon associé dans la publication de l'ouvrage. Nous y serons chacun pour moitié. Vous vous chargerez du plan et du travail. Moi, je fournirai, outre l'idée première, les capitaux que nécessite l'entreprise. Le livre couvrira les frais. Il se vendra si nous parvenons à trouver un bon plan. Je vous préviens que ce n'est pas pour moi une affaire de lucre, mais je désire beaucoup que l'ouvrage ait du succès, et je serai fière s'il fait de l'argent. Eh bien, mais quel sera mon rôle dans cette combinaison ? Je vous invite à être mon collaborateur, pour moitié. Vous trouverez le plan.
Comment savez-vous si je suis capable de trouver un plan?
On m'a parlé de vous, et j'ai entendu dire ici... Je sais que vous êtes fort intelligent, que vous vous occupez de l'affaire et que vous pensez beaucoup. Pierre Stepanovitch Verkovansky m'a parlé de vous en Suisse, ajouta-t-elle précipitamment.
C'est un homme très intelligent, n'est-il pas vrai?
Chatov jeta sur elle un regard rapide, puis il baissa les yeux.
Nicolas Vsevolodovitch m'a aussi beaucoup parlé de vous.
Chatov rougit tout à coup. « Du reste, voici les journaux, » dit la jeune fille qui se hâta de prendre sur une chaise un paquet de journaux noués avec une ficelle. « J'ai essayé de noter ici les faits qu'on pourrait choisir, et j'ai mis des numéros, vous verrez. »
Le visiteur prit le paquet.
« Emportez cela chez vous, jetez-y un coup d'œil. Où demeurez-vous ? »
« Rue de l'Épiphanie, maison Philippov. »
« Je sais. » C'est là aussi, dit-on, qu'habite un certain capitaine Lebiatkin, reprit vivement Lisa. Pendant toute une minute, Chatov resta sans répondre, les yeux attachés sur le paquet.
Pour ces choses-là, vous feriez mieux d'en choisir un autre. Moi, je vous serais bon à rien,
dit-il enfin d'un ton extrêmement bas. Lisa rougit.
Mais de quelle chose parlez-vous ? « Maurice Nikolaïevitch ! » cria-t-elle. « Donnez-moi la lettre qui est arrivée ici tantôt. »
Maurice Nikolaïevitch s'approcha de la table. Je le suivis.
« Regardez cela !»
me dit-elle brusquement en dépliant la lettre avec agitation.
« Avez-vous jamais rien vu de pareil ? Lisez tout haut, je vous prie. Je tiens à ce que M. Chatov entende. »
Je lus à haute voix ce qui suit. À la perfection de Mademoiselle Touchine. Mademoiselle Elisabeth Nikolaïevna. Ah, combien est charmante Elisabeth Touchine! Quand, à côté de son parent, d'un rapide coursier elle presse l'échine, et que sa chevelure ondoie au gré du vent. Ou quand, avec sa mère, on la voit au Saint-Temple courbée devant l'autel son visage pieux. En rêvant à l'hymen, alors je la contemple. Et d'un regard mouillé, je les suis toutes deux. Composée par un ignorant au cours d'une discussion. Mademoiselle. Je regrette, on ne peut plus de n'avoir pas perdu un bras pour la gloire à Sébastopol. Mais j'ai fait toute la campagne dans le service des vivres, ce que je considère comme une bassesse. Vous êtes une déesse de l'Antiquité. Moi, je ne suis rien. Mais en vous voyant, j'ai deviné l'infini. Ne regardez cela que comme des vers et rien de plus, car les vers ne signifient rien. Seulement, ils permettent de dire ce qui en prose passerait pour une impertinence. Le soleil peut-il se fâcher contre l'infusoire si dans la goutte d'eau où il se compte par milliers, celui-ci compose une poésie en son honneur? Même la société protectrice des animaux, qui siège à Pétersbourg et qui s'intéresse aux chiens et aux chevaux, méprise l'humble infusoire. Elle le dédaigne parce qu'il n'a pas atteint son développement. Moi aussi, je suis restée à l'état embryonnaire. L'idée de m'épouser pourrait vous paraître bouffonne, mais j'aurai bientôt une propriété de 200 âmes, actuellement possédée par un misanthrope. Méprisez-le. Je puis révéler bien des choses, et grâce aux documents que j'ai en main, je me charge d'envoyer quelqu'un en Sibérie. Ne méprisez pas ma proposition. La lettre de l'infusoire, naturellement, est en vers. Le capitaine Lebiatkin, votre très obéissant ami, qui a des loisirs.
Cela a été écrit par un homme en état d'ivresse, et par un vaurien,
m'écriai-je indigné.
Je le connais.
J'ai reçu cette lettre hier, nous expliqua en rougissant Lisa. J'ai compris tout de suite qu'elle venait d'un imbécile, et je ne l'ai pas montrée à maman pour ne pas l'agiter davantage. Mais s'il revient à la charge, je ne sais comment faire. Maurice Nikolaïevitch veut aller le mettre à la raison. Vous considérant comme mon collaborateur, dit-elle ensuite à Chatov, et sachant que vous demeurez dans la même maison que cet homme, je désirerais vous questionner à son sujet, pour être édifié sur ce que je puis attendre de lui. »
« C'est un ivrogne et un vaurien !»
fit en rechignant Chatov.
« Est-ce qu'il est toujours aussi bête ?»«
Non, quand il n'a pas bu, il n'est pas absolument bête. »
« J'ai connu un général qui faisait des vers tout pareils à ceux-là, »
observai-je en riant.
« Cette lettre même prouve qu'il n'est pas un niais, »
déclara soudain Maurice Nikolaïevitch, qui jusqu'alors était resté silencieux.
« Il a, dit-on, une sœur avec qui il habite ?»
demanda Lisa.
« Oui, il habite avec sa sœur. On dit qu'il la tyrannise, c'est vrai ?»
Chatov jeta de nouveau sur la jeune fille un regard sondeur, quoique rapide.
« Est-ce que je m'occupe de cela ? »
grommela-t-il en fronçant le sourcil, et il se dirigea vers la porte.
« Ah, attendez un peu !» cria Lisa inquiète. « Où allez-vous donc ? Nous avons encore tant de points à examiner ensemble. »
« De quoi parlerions-nous ? Demain, je vous ferai savoir. »«
Mais de la chose principale, de l'impression ! Croyez bien que je ne plaisante pas, et que je veux sérieusement entreprendre cette affaire !»
assura Lisa, dont l'inquiétude ne faisait que s'accroître.
« Si nous nous décidons à publier l'ouvrage, où l'imprimerons-nous ? C'est la question la plus importante, car nous n'irons pas à Moscou pour cela. » Et il est impossible de confier un tel travail à l'imprimerie d'ici. Depuis longtemps, j'ai résolu de fonder un établissement typographique qui sera à votre nom, si vous y consentez. À cette condition, maman, je le sais, me laissera carte blanche.
Pourquoi donc me supposez-vous capable d'être imprimeur ? Répliqua Chatov d'un ton maussade.
Pendant que j'étais en Suisse, Pierre Stepanovitch vous a désigné à moi, comme un homme connaissant le métier d'imprimeur et en état de diriger un établissement typographique. Il m'avait même donné un mot pour vous, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. »
Chatov, je me le rappelle maintenant, changea de visage. Au bout de quelques secondes, il sortit brusquement de la chambre. Lisa se sentit prise de colère.
« Est-ce qu'il en va toujours ainsi ? »
me demanda-t-elle. Je haussai les épaules. Tout à coup, Chatov rentra et alla droit à la table sur laquelle il déposa le paquet de journaux qu'il avait pris avec lui.
« Je ne serai pas votre collaborateur, je n'ai pas le temps. »« Pourquoi donc ? Vous avez l'air fâché !»
fit Lisa d'un ton affligé et suppliant. Le son de cette voix parut produire une certaine impression sur Chatov. Pendant quelques instants, il regarda fixement la jeune fille, comme s'il eût voulu pénétrer jusqu'au fond de son âme.
« N'importe » murmura-t-il presque tout bas. « Je ne veux pas !»
Et il se retira cette fois pour tout de bon. Lisa resta positivement consternée. « Je ne comprenais même pas qu'un incident semblable pût l'affecter à ce point. »«
C'est un homme singulièrement étrange !»
observa d'une voix forte Maurice Nikolaïevitch.
Certes, oui, il était étrange, mais dans tout cela il y avait bien du louche, bien des sous-entendus.
Décidément, je ne croyais pas à la publication projetée. Ensuite, la lettre du capitaine Libiatkin, toute stupide qu'elle était, ne laissait pas de contenir une allusion trop claire à certaines dénonciations possibles, appuyées sur des documents. Personne pourtant n'avait relevé ce passage, on avait parlé de tout autre chose. Enfin, cette imprimerie et le brusque départ de Chatov dès les premiers mots prononcés à ce sujet. Toutes ces circonstances m'amenèrent à penser qu'avant mon arrivée, il s'était passé là quelque chose dont on ne m'avait pas donné connaissance, que, par conséquent, j'étais de trop et que toutes ces affaires ne me regardaient pas. D'ailleurs, il était temps de partir. Pour une première visite, j'étais resté assez longtemps. Je me mis donc en devoir de prendre congé. Elisabeth Nikolaïevna semblait avoir oublié ma présence dans la chambre. Toujours debout à la même place, près de la table, elle réfléchissait profondément, et, la tête baissée, tenait ses yeux fixés sur un point du tapis. « Ah, vous vous en allez aussi ? Au revoir » fit-elle avec son affabilité accoutumée. « Remettez mes salutations à Stepan Trofimovitch et engagez-le à venir me voir bientôt. Maurice Nikolaïevitch, Antoine Lavrentievitch s'en va. Excusez, maman, elle ne peut pas venir vous dire adieu. » Je sortis, et j'étais déjà en bas de l'escalier quand un domestique me rejoignit sur le perron. « Madame vous prie instamment de remonter. »« Madame ou Elisabeth Nikolaïevna ?»« Elisabeth Nikolaïevna. » Je trouvai Lisa non plus dans la grande salle où nous étions tout à l'heure, mais dans une pièce voisine. La porte donnant accès à cette salle, où il n'y avait plus maintenant que Maurice Nikolaïevitch, était fermée hermétiquement. Lisa me sourit, mais elle était pâle. Debout au milieu de la chambre, elle semblait hésitante, travaillée par une lutte intérieure. Tout à coup, elle me prit par le bras et, sans proférer un mot, m'emmena vivement près de la fenêtre. « Je veux la voir sans délai !» murmura-t-elle en fixant sur moi un regard ardent, impérieux, n'admettant pas l'ombre d'une réplique. « Je dois la voir de mes propres yeux et je sollicite votre aide. » Elle était dans un état d'exaltation qui rend capable de tous les coups de tête. « Qui désirez-vous voir, Elisabeth Nikolaïevna ? » demandai-je effrayée. « Cette demoiselle Libiatkine, cette boiteuse, c'est vrai qu'elle est boiteuse ?» Je restais stupéfait. « Je ne l'ai jamais vue, mais j'ai entendu dire qu'elle l'est. On me l'a dit encore hier. » balbutiai-je rapidement et à voix basse. « Il faut absolument que je la voie. Pourriez-vous me ménager une entrevue avec elle aujourd'hui même ?» Elle m'inspirait une profonde pitié. « C'est impossible, et même je ne vois pas du tout comment je pourrais m'y prendre, » répondis-je. « Je passerai chez Chatov. Si vous n'arrangez pas cela pour demain, j'irai moi-même chez elle. Je m'y rendrai seule, parce que Maurice Nikolaïevitch a refusé de m'accompagner. Je n'espère qu'en vous. « Je ne puis plus compter sur aucun autre. » J'ai parlé bêtement à Chatov. « Je suis sûre que vous êtes un très honnête homme. Peut-être m'êtes-vous dévoué. Tâchez d'arranger cela. » J'éprouvais le plus vif désir de lui venir en aide par tous les moyens en mon pouvoir. « Voici ce que je ferai, » dis-je après un instant de réflexion. « Je vais aller là-bas. Et aujourd'hui, pour sûr, je la verrai. Je ferai en sorte de la voir. Je vous en donne ma parole d'honneur. Seulement, permettez-moi de mettre Chatov dans la confidence de votre dessein. Dites-lui que j'ai ce désir et que je ne puis plus attendre, mais que je ne l'ai pas trompé tout à l'heure. S'il est parti, c'est peut-être parce qu'il est très honnête et qu'il a cru que je voulais le prendre pour dupe. Je lui ai dit la vérité. Mon intention est, en effet, de publier un livre et de fonder une imprimerie. « Il est honnête, fort honnête, » confirmai-je avec chaleur. « Du reste, si la chose n'est pas arrangée pour demain, j'irai moi-même, quoi qu'il advienne, dû toute la ville le savoir. »« Je ne pourrai pas être chez vous demain avant 3 heures, » observai-je. « Eh bien, je vous attendrai à 3 heures. Ainsi, je ne m'étais pas trompé hier chez Stepan Trofimovitch, en supposant que vous m'étiez quelque peu dévoué. » ajouta-t-elle avec un sourire. Puis elle me serra la main et courut retrouver Maurice Nikolaïevitch. Je sortis fort préoccupé de ma promesse. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'avais vu une femme au désespoir, qui ne craignait pas de se compromettre en se confiant à un homme qu'elle connaissait à peine. Son sourire féminin, dans un moment si difficile pour elle, et cette allusion aux sentiments qu'elle avait remarqués en moi la veille avait fait leur trouer dans mon cœur comme des coups de poignard. Mais ce que j'éprouvais était de la pitié et rien de plus. Les secrets d'Elisabeth Nikolaïevna avait pris soudain à mes yeux un caractère sacré. Et si, en ce moment, on avait entrepris de me les révéler, je crois que je me serais bouché les oreilles pour ne pas en savoir davantage. Je pressentais seulement quelque chose. Avec tout cela, je n'avais pas la moindre idée de la manière dont j'arrangerais cette entrevue. Tout mon espoir était dans Chatoff, bien que je pusse prévoir qu'il ne me serait d'aucune utilité. Néanmoins, je courus chez lui. IV. Je ne pus le trouver à son domicile que le soir vers 8 heures. Chose qui m'étonna, il y avait du monde. Alexis Nilitch et un autre monsieur que je connaissais un peu, un certain Chigalef, frère de Madame Virginsky. Ce Chigalef était depuis 2 mois l'hôte de notre ville. Je ne sais d'où il venait. J'ai seulement entendu dire qu'il avait publié un article dans une revue progressiste de Pétersbourg. Virginsky nous avait présenté l'un à l'autre, par hasard, dans la rue. Je n'avais jamais vu de physionomie aussi sombre, aussi renfrognée, aussi maussade que celle de cet homme. Il avait l'air d'attendre la fin du monde pour demain à 10h25. Dans la circonstance que je rappelle, nous nous parlâmes à peine et nous bornâmes à échanger une poignée de main avec la mine de 2 conspirateurs. Chigalef me frappa surtout par l'étrangeté de ses oreilles, longues, larges, épaisses et très écartées de la tête. Ses mouvements étaient lents et disgracieux. Si Lipoutine rêvait pour un temps plus ou moins éloigné l'établissement d'un phalanstère dans notre province, celui-ci savait de science certaine le jour et l'heure où cet événement s'accomplirait. Il produisit sur moi une impression sinistre. Dans le cas présent, je fus d'autant plus étonné de le rencontrer chez Chatoff que ce dernier, en général, n'aimait pas les visites. De l'escalier, j'entendis le bruit de leur conversation. Ils parlaient tous 3 à la fois et probablement se disputaient. Mais à mon apparition, ils se turent. Pendant la discussion, ils s'étaient levés. Lorsque j'entrai, tous s'assirent brusquement, si bien que je dus m'asseoir aussi. Durant 3 minutes, régna un silence bête. Quoique Chigalef m'eût reconnu, il fit semblant de ne m'avoir jamais vu. Non par hostilité à mon égard, mais c'était son genre. Alexis Nilitch et moi, nous nous saluâmes sans nous rien dire et sans nous tendre la main. Chigalef, fronçant le sourcil, se mit à me regarder d'un œil sévère, naïvement convaincu que j'allais décamper aussitôt. Enfin, Chatoff se souleva légèrement sur son siège. Les visiteurs se levèrent alors et sortirent sans prendre congé. Toutefois, sur le seuil, Chigalef dit à Chatoff qu'il le reconduisait. « Rappelez-vous que vous avez des comptes à rendre. »« Je me moque de vos comptes et je n'en rendrai à aucun diable !» répondit Chatoff. Après quoi il ferma la porte au crochet. Bécasso, fit-il en me regardant avec un sourire désagréable. Son visage exprimait la colère, et je remarquai non sans étonnement qu'il prenait le premier la parole. Presque toujours, quand j'allais chez lui, ce qui du reste arrivait très rarement, il restait maussade dans un coin et répondait d'un ton fâché. À la longue seulement, il s'animait et trouvait du plaisir à causer. En revanche, au moment des adieux, sa mine redevenait invariablement grincheuse, et, en vous reconduisant, il avait l'air de mettre à la porte un ennemi personnel. « J'ai bu du thé hier chez Alexis Nilitch, observai-je. Il paraît avoir la toquade de l'athéisme. » « L'athéisme russe n'a jamais dépassé le calembour !» grommela Chatoff en remplaçant par une bougie neuve le lumignon qui se trouvait dans le chandelier. « Celui-là même ne m'a pas fait l'effet d'un calembouriste. À peine sait-il parler le langage le plus simple. »« Ce sont des hommes de papier. Tout cela vient du servilisme de la pensée. reprit Chatov, qui s'était assis sur une chaise dans un coin et tenait ses mains appuyées sur ses genoux.
« Il y a là aussi de la haine, »
poursuivit-il après une minute de silence.
« Ils seraient les premiers horriblement malheureux si tout d'un coup la Russie se transformait, même dans un sens conforme à leur vue, si, de façon ou d'autre, elle devenait extrêmement riche et heureuse. Ils n'auraient plus personne à haïr, plus rien à conspuer. Il n'y a là qu'une haine bestiale, immense, pour la Russie, une haine qui s'est infiltrée dans l'organisme. Et c'est une sottise de chercher, sous le rire visible, des larmes invisibles au monde. »
La phrase concernant ces prétendues larmes invisibles est la plus mensongère qui ait encore été dite chez nous, vociféra-t-il avec une sorte de fureur.
« Allons, vous voilà parti, » fis-je en riant.
Chatov sourit à son tour.
« C'est vrai, vous êtes un libéral modéré. Vous savez, j'ai peut-être eu tort de parler du servilisme de la pensée, car vous allez sûrement me répondre « Parle pour toi qui es né d'un laquais, moi je ne suis pas un domestique. »
« Je ne songeais pas du tout à vous répondre cela. Comment pouvez-vous supposer une chose pareille ?»«
Ne vous excusez pas, je n'ai pas peur de ce que vous pouvez dire. Autrefois, je n'étais que le fils d'un laquais. À présent, je suis devenu moi-même un laquais, tout comme vous. Le libéral russe est avant tout un laquais. Il ne pense qu'à cirer les bottes de quelqu'un. »
« Comment, les bottes? Qu'est-ce que c'est que cette figure ?»«
Il n'y a point là de figure. Vous riez, je le vois. Stepan Trofimovitch ne s'est pas trompé en me représentant comme un homme écrasé sous une pierre dont il s'efforce de secouer le poids. La comparaison est très juste. »
Stepan Trofimovitch assure que l'Allemagne vous a rendu fou, dis-je en riant. Nous avons toujours emprunté quelque chose aux Allemands.
Ils nous ont prêté 20 kopecks, et nous leur avons rendu 100 roubles.
Nous nous tûmes pendant une minute.
Lui, c'est en Amérique qu'il a gagné son mal.
Qui ?
Je parle de Kirillov. Là-bas, pendant 4 mois, nous avons tous les deux couché par terre dans une cabane.
Mais est-ce que vous êtes allé en Amérique ? Demandai-je avec étonnement. Vous n'en avez jamais rien dit.
À quoi bon parler de cela ? Il y a 2 ans, nous sommes partis à 3 pour les États-Unis, à bord d'un steamer chargé des migrants. Nous avons sacrifié nos dernières ressources pour faire ce voyage. Nous voulions mener la vie de l'ouvrier américain et connaître ainsi, par notre expérience personnelle, l'état de l'homme dans la condition sociale la plus pénible. Voilà quel était notre but.
Je me mis à rire.
« Vous n'aviez pas besoin de traverser la mer pour faire cette expérience. Vous n'aviez qu'à aller dans n'importe quel endroit de notre province à l'époque des travaux champêtres. »
Arrivés en Amérique, nous louâmes nos services à un entrepreneur. Nous étions là 6 Russes, des étudiants et même des propriétaires et des officiers, tous se proposant le même but grandiose. Eh bien, nous travaillâmes comme des nègres, nous souffrîmes le martyre. À la fin, Kirillov et moi n'y pûmes tenir. Nous étions rendus, à bout de force, malades. En nous réglant, l'entrepreneur nous retint une partie de notre salaire. Il nous devait 30 $. Je n'en reçus que 8 et Kirillov 15. On nous avait aussi battus plus d'une fois. Après cela, nous restâmes 4 mois sans travail dans une méchante petite ville. Kirillov et moi, nous couchions côte à côte, par terre, lui pensant à une chose et moi à une autre.
« Se peut-il que votre patron vous ait battu, et cela en Amérique ? Vous avez dû joliment le rabrouer. »«
Pas du tout. Loin de là, dès le début, nous avions posé en principe, Kirillov et moi, que nous autres, Russes, nous étions vis-à-vis des Américains comme des petits-enfants, et qu'il fallait être né en Amérique, ou du moins y avoir vécu de longues années, pour se trouver au niveau de ce peuple. Que vous dirais-je? Quand, pour un objet d'un kopeck, on nous demandait 1 $. Nous payions, non seulement avec plaisir, mais même avec enthousiasme. Nous admirions tout. Le spiritisme, la loi de Lynch, les revolvers, les vagabonds. Une fois, pendant un voyage que nous faisions, un quidam introduisit sa main dans ma poche, prit mon peigne et commença à se peigner avec. Nous nous contentâmes, Kirillov et moi, d'échanger un coup d'œil, et nous décidâmes que cette façon d'agir était la bonne. Il est étrange que, chez nous, non seulement on ait de pareilles idées, mais qu'on les mette à exécution, observai-je.
Des hommes de papier, répéta Chatov.
Tout de même, s'embarquer comme émigrants, se rendre dans un pays qu'on ne connaît pas, à seule fin d'apprendre par une expérience personnelle, etc., cela dénote une force d'âme peu commune. Et comment avez-vous quitté l'Amérique ?
J'ai écrit à un homme en Europe, et il m'a envoyé 100 roubles.
Jusqu'alors, Chatov avait parlé en tenant ses yeux fixés à terre selon son habitude. Tout à coup, il releva la tête.
« Voulez-vous savoir le nom de cet homme ?»«
Qui est-ce ?»«
Nicolas Stavrogin. »
Il se leva brusquement, s'approcha de son bureau en bois de tilleul et se mit à y chercher quelque chose. Le bruit s'était répandu chez nous que sa femme avait été pendant quelque temps, à Paris, la maîtresse de Nicolas Stavrogin. Il y avait 2 ans de cela. Par conséquent, c'était à l'époque où Chatov se trouvait en Amérique. Il est vrai que depuis longtemps, une séparation avait eu lieu à Genève entre les 2 époux.
« S'il en est ainsi, pensais-je, pourquoi donc a-t-il tant tenu à me dire le nom de son bienfaiteur ?»
Il se tourna soudain vers moi.
« Je ne lui ai pas encore remboursé cette somme, » continua-t-il.
Puis, me regardant fixement, il se rassit à sa première place, dans le coin, et me demanda d'une voix saccadée qui jurait singulièrement avec le ton de la conversation précédente. « Vous êtes sans doute venu pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous faut ?» Je racontai tout, de point en point. J'ajoutai que, tout en comprenant maintenant combien je m'étais imprudemment avancé, je n'en éprouvais que plus d'embarras. Je sentais que l'entrevue souhaitée par Elisabeth Nikolaïevna était fort importante pour elle. J'avais le plus vif désir de lui venir en aide. Malheureusement, je ne savais comment faire pour tenir ma promesse. Ensuite, j'affirmai solennellement à Chatov qu'Elisabeth Nikolaïevna n'avait jamais songé à le tromper, qu'il y avait eu là un malentendu, et que son brusque départ avait causé un grand chagrin à la jeune fille. Il m'écouta très attentivement jusqu'au bout.
Peut-être qu'en effet, selon mon habitude, j'ai fait une bêtise tantôt. Eh bien, si elle n'a pas compris pourquoi je suis parti ainsi, tant mieux pour elle.
Il se leva, alla ouvrir la porte et se mit aux écoutes sur le carré.
Vous désirez vous-même voir cette personne ?
Il le faut, mais comment faire ? Répondis-je.
Il n'y a qu'à aller la trouver pendant qu'elle est seule. Lorsqu'il reviendra, il la battra s'il apprend que nous sommes venus. Je vais souvent la voir en cachette. Tantôt, j'ai dû employer la force pour l'empêcher de la battre.
Bah, vraiment ?
Oui, pendant qu'il la rossait, je l'ai empoignée par les cheveux. Alors, il a voulu me battre à mon tour, mais je lui ai fait peur, et cela a fini ainsi. Quand il reviendra ivre, je crains qu'il ne se venge sur elle s'il se rappelle la scène que nous avons eue ensemble.
Nous descendîmes au rez-de-chaussée. V. La porte des Lebiatkin n'était pas fermée à clé, nous n'eûmes donc pas de peine à entrer. Tout leur logement consistait en 2 vilaines petites chambres, dont les murs enfumés étaient garnis d'une tapisserie sale et délabrée. Ces 2 pièces avaient jadis fait partie de la gargote de Philippov, avant que celui-ci eût transféré son établissement dans une maison neuve. Sauf un vieux fauteuil auquel manquait un bras, le mobilier se composait de bancs grossiers et de tables en bois blanc. Dans un coin de la seconde chambre se trouvait un lit couvert d'une courte pointe d'indienne. C'était là que couchait mademoiselle Lebiatkin. Quant au capitaine, qui chaque nuit rentrait ivre, il cuvait son vin sur le plancher. Partout régnait le désordre et la malpropreté. Une grande loque toute mouillée traînait au milieu de la pièce, à côté d'une vieille savate. Il était évident que personne, là, ne s'occupait de rien. On n'allumait pas les poêles, on ne faisait pas la cuisine. Les Lebiadkine, à ce que m'apprit Chatov, ne possédaient même pas de samovar. Quand le capitaine était arrivé avec sa sœur, il tirait le diable par la queue, et, comme l'avait dit Lipoutine, il avait commencé par aller mendier dans les maisons. Depuis qu'il avait le gousset garni, il s'adonnait à la boisson, et l'ivrognerie lui faisait négliger complètement le soin de son intérieur. Mademoiselle Lebiadkine, que je désirais tant voir, était tranquillement assise sur un banc dans un coin de la chambre, devant une table de cuisine. Lorsque nous ouvrîmes la porte, elle ne proféra pas un mot et ne bougea même pas de sa place. Chatov me dit que l'appartement n'était jamais fermé, et qu'une fois, elle avait passé toute la nuit dans le vestibule avec la porte grande ouverte. À la faible clarté d'une mince bougie fichée dans un chandelier de fer, j'aperçus une femme qui pouvait avoir une trentaine d'années et qui était d'une maigreur maladive. Elle portait une vieille robe d'indienne de couleur sombre. Son long cou était entièrement à découvert. Ses rares cheveux, d'une nuance foncée, étaient réunis sur sa nuque, en un chignon gros comme le poing d'un enfant de 2 ans. Elle nous regarda d'un air assez gai. Outre le chandelier, il y avait devant elle sur la table une petite glace entourée d'un cadre de bois, un vieux jeu de cartes, un recueil de chansons et un petit pain blanc déjà un peu entamé. On voyait que Mademoiselle Lebiadkine se mettait du fard et se colorait les lèvres. Elle se teignait aussi les sourcils, qu'elle avait d'ailleurs longs, fins et noirs. Nonobstant son maquillage, 3 longues rides apparaissaient assez nettement sur son front étroit et élevé. Je savais déjà qu'elle était boiteuse. Autrement, je ne me serais pas douté de son infirmité, car elle ne se leva ni ne marcha en notre présence. Jadis, dans la première jeunesse, ce visage émacié n'avait peut-être pas été laid. Les yeux gris, doux et tranquilles, étaient restés remarquables. Leur regard paisible, presque joyeux, avait quelque chose de rêveur et de sincère. Cette joie calme, qui se manifestait aussi dans le sourire de la pauvre femme, m'étonna après tout ce que j'avais entendu dire des mauvais traitements auxquels elle était en butte de la part de son frère. Loin d'éprouver la sensation de dégoût et même de crainte qui s'éveille d'ordinaire à la vue de ces malheureuses créatures frappées par la colère de Dieu, dans le premier moment, je considérais Mademoiselle Lebiadkine avec une sorte de plaisir, et ensuite l'impression qu'elle produisit sur moi fut de la pitié, mais nullement du dégoût. Elle passe ainsi les journées entières, toute seule, sans bouger. Elle se tire les cartes ou se regarde dans la glace, dit Chatov en me la montrant du seuil. Il ne la nourrit même pas. La vieille du pavillon lui apporte de temps en temps quelque chose pour l'amour du Christ. Comment la laisse-t-on ainsi seule avec une bougie ? J'étais étonné d'entendre Chatov prononcer ces mots à haute voix comme si elle n'avait pas été dans la chambre. « Bonjour, Chatouchka, » dit d'un ton affable Mademoiselle Lebiadkine. « Je t'amène un visiteur, Marie Timofeyevna, » répondit Chatov. « Eh bien, on lui fera honneur. Je ne sais qui tu m'amènes. Je ne me rappelle pas l'avoir jamais vu, » reprit-elle en me regardant attentivement à la lueur de la bougie. Puis elle se remit à causer avec Chatov. Et pendant toute la durée de la conversation, elle ne fit pas plus d'attention à moi que si je ne m'étais pas trouvé à côté d'elle. « Cela t'ennuyait, n'est-ce pas, de te promener tout seul dans ta chambrette ? » demanda-t-elle avec un rire qui découvrit 2 rangées de dents admirables. « Oui, c'est pourquoi je suis venu te voir. » Chatov approcha un escabeau de la table, s'assit et m'invita à en faire autant.
J'aime toujours à causer, seulement je te trouve drôle, Chatouchka. Tu es comme un moine. Quand es-tu peigné?
Donne-moi encore ta tête,
dit-elle en tirant un peigne de sa poche. Je suis sûre que tu n'as pas touché à ta chevelure depuis que je t'ai peigné.
Mais je n'ai pas de peigne, répondit en riant Chatoff.
Vraiment? Eh bien, je t'en donnerai un. Pas celui-ci, un autre. Seulement n'oublie pas de t'en servir. Elle commença à le peigner de l'air le plus sérieux, lui fit même une raie sur le côté, puis, après s'être un peu rejetée en arrière pour contempler son ouvrage et s'assurer qu'il ne laissait rien à désirer, elle remit son peigne dans sa poche.
« Sais-tu une chose, Chatouchka ? » dit-elle en hochant la tête. « Tu es un homme de sens, et pourtant tu t'ennuies. Vous m'étonnez tous quand je vous regarde. Je ne comprends pas que des gens s'ennuient. Moi, je m'amuse.
Tu t'amuses avec ton frère?
Tu parles de Lebiatkin? C'est mon laquais. Il m'est absolument égal qu'il soit ici ou qu'il n'y soit pas. Je lui crie « Lebiatkin, apporte-moi de l'eau. Lebiatkin, donne-moi mes souliers. » Il court me les chercher. Quelquefois, il se trompe et je me moque de lui.
C'est la vérité, me fit observer Chatoff, parlant cette fois encore à haute voix, sans s'inquiéter aucunement de la présence de Marie Timofeyevna. Elle le traite tout à fait comme un laquais. Je l'ai moi-même entendu crier « Lebiatkin, apporte-moi de l'eau !» Et elle riait en lui donnant cet ordre. Seulement, au lieu d'obéir, il la bat. Mais elle n'a pas du tout peur de lui. Elle est sujette à des attaques nerveuses qui se renouvellent presque chaque jour et lui enlèvent la mémoire. À la suite de ces accès, elle oublie tout ce qui vient de se passer et perd toute notion du temps. Vous croyez qu'elle se rappelle comment nous sommes entrés? C'est possible, mais à coup sûr, elle a déjà tout arrangé à sa façon et nous prend maintenant Dieu sait pour qui, bien qu'elle n'oublie pas que je suis Chatouchka. Cela ne fait rien que je parle tout haut. Elle cesse au bout d'un instant d'écouter ce qui cause avec elle et se met à rêver à part soi. En ce moment, son esprit bat la campagne. Elle est extraordinairement distraite. Durant 8 heures consécutives, durant une journée entière, elle reste assise à la même place. Vous voyez ce pain sur la table? Elle n'en a peut-être mangé qu'une bouchée depuis ce matin, et elle l'achèvera demain. Tenez, à présent, elle se tire les cartes.
Oui, Chatouchka, je me tire les cartes, mais cela ne sert à rien,
dit brusquement Marie Timofeyevna, qui avait entendu la dernière parole de Chatoff. Et elle tendit sa main gauche vers le pain, sans, du reste, le regarder. Son attention avait sans doute été attirée aussi par la phrase où il en était question. À la fin, elle prit le pain, mais, entraînée par le plaisir de causer, elle le remit inconsciemment sur la table, après l'avoir gardé pendant quelque temps dans sa main gauche, sans y mordre une seule fois. Ce sont toujours les mêmes réponses. Un voyage, un méchant homme, la perfidie de quelqu'un, un lit de mort, une lettre qui arrivera de quelque part, une nouvelle inattendue. Je considère tout cela comme des mensonges. Et toi, Chatouchka, qu'en penses-tu? Si les hommes mentent, pourquoi les cartes ne mentiraient-elles pas? Ajouta-t-elle en brouillant tout à coup le jeu. C'est ce que j'ai dit un jour à la mère Praskovy, une femme respectable, qui venait sans cesse me trouver dans ma cellule, à l'insu de la mère supérieure, pour me prier de lui tirer les cartes. Et elle ne venait pas seule. Toutes ces religieuses étaient là, poussant des exclamations, hochant la tête, faisant des commentaires. « Voyons, mère Praskovy, dis-je en riant, comment recevriez-vous une lettre quand il ne vous en est pas venu depuis 12 ans ?» Elle avait une fille mariée à quelqu'un qui l'avait emmenée en Turquie, et depuis 12 ans elle était sans nouvelles d'elle. Le lendemain soir, je pris le thé chez la mère supérieure. Elle appartient à une famille princière. Il y avait là 2 personnes étrangères, une dame très rêveuse et un moine du mont Athos. Homme assez drôle, à mon avis. Eh bien, Chatouchka, dans la matinée, ce même moine avait apporté de Turquie à la mère Praskovy
une lettre de sa fille. Pendant que nous buvions du thé, le religieux du mont Athos dit à la mère supérieure « Révérende mère Igoumène, il faut que votre couvent soit particulièrement béni des dieux pour posséder un trésor aussi précieux. »«
Quel trésor ? » demanda la supérieure.
« Mais la bienheureuse mère Élisabeth !»
Cette bienheureuse Élisabeth occupe une niche longue d'une sagène et haute de deux archines, pratiquée dans le mur d'enceinte du couvent. Elle est là, depuis 17 ans, derrière un grillage. Hiver et été, elle ne porte qu'une chemise de chanvre, dont elle se fait un cilice en fourrant des fétus de paille dans la toile. Elle ne dit rien, ne se peigne pas, ne se lave pas, depuis 17 ans. En hiver, on lui passe une peau de mouton par l'ouverture de sa niche. C'est aussi comme cela qu'on lui donne chaque jour une pinte d'eau et une croûte de pain. Les pèlerins la contemplent avec vénération et, après l'avoir vue, font une offrande au monastère.
« Un fameux trésor !» répond avec colère la supérieure qui ne pouvait souffrir Élisabeth.
« Elle ne reste là que par entêtement, c'est une hypocrite !»
Ces mots me déplurent, car moi-même je voulais alors adopter le genre de vie des recluses.
« Selon moi, dis-je, Dieu et la nature, c'est tout un. »«
En voilà une, celle-là »
s'écrièrent-ils tous d'une commune voix. La supérieure se mit à rire, puis elle parla tout bas à la dame, m'appela auprès d'elle et me fit des caresses. La dame me donna un petit nœud de ruban rose. « Veux-tu que je te le montre ?» Quant au moine, il commença aussitôt à me faire un sermon, me parla fort doucement, fort gentiment, et sans doute avec beaucoup d'esprit. Je l'écoutais sans rien dire.
« As-tu compris ?» me demanda-t-il.
« Non, répondis-je, je n'ai rien compris. Laissez-moi en repos. »
Depuis ce moment, Chatouchka, on me laissa parfaitement tranquille.
Et un jour, une de nos religieuses, qui était en pénitence dans le couvent parce qu'elle faisait des prophéties, me dit tout bas au sortir de l'église. « La mère de Dieu, qu'est-ce que c'est à ton avis ?»«
La grande mère, répondis-je, c'est l'espérance du genre humain. »
« Oui, reprit-elle, la mère de Dieu, la grande mère, c'est la terre. Et il y a dans cette pensée une grande joie pour l'homme. Tout chagrin terrestre, toute larme terrestre est une jouissance pour nous. Quand tu abreuveras la terre de tes larmes, quand tu lui en feras présent, la tristesse s'évanouira aussitôt et tu seras toute consolée. C'est une prophétie. »
Ces paroles firent une profonde impression sur moi. Depuis, quand, en priant, je me prosterne contre le sol, je ne manque jamais de baiser la terre, chaque fois. Je la baise en pleurant.
Et... « Vois-tu, Chatouchka, il n'y a rien de pénible dans ces larmes. Quoi qu'on ait aucun chagrin, on pleure tout de même, mais c'est de joie. Un jour, je vais sur les bords du lac. Notre monastère est situé d'un côté. De l'autre s'élève une montagne escarpée qu'on appelle le mont Aigu. Je gravis cette montagne, je tourne mon visage vers l'Orient, je me prosterne contre le sol et je pleure je ne sais combien de temps. Ensuite, je me relève, je rebrousse chemin, et le soleil se couche, si grand, si splendide. Aimes-tu à regarder le soleil, Chatouchka ?
C'est beau, mais c'est triste.
Je me retourne de nouveau vers l'Orient, et l'ombre de notre montagne court comme une flèche au loin sur le lac. Elle est étroite et longue, longue de plus d'une verste. Elle s'étend jusqu'à l'île même qui est dans le lac. Là, elle se coupe en deux parties égales. Le soleil a complètement disparu. Tout est soudain plongé dans l'obscurité. Alors je commence à m'inquiéter. La mémoire me revient brusquement. J'ai peur des ténèbres, Chatouchka. Quand il fait noir, je pleure toujours davantage, mon petit enfant.
« Est-ce que tu as eu un enfant ?» dit Chatov en me poussant du coude.
Il n'avait cessé de prêter la plus grande attention aux paroles de Marie Timofeyevna.
« Comment donc, un joli baby rose, avec de si petits ongles ? Tout mon chagrin est de ne pouvoir me rappeler si c'était un garçon ou une fille. Après sa naissance, je l'ai enveloppé dans de la batiste et de la dentelle. J'ai noué de petits rubans roses tout autour, je l'ai couvert de fleurs, je l'ai bien pomponné. Puis j'ai dit une prière au-dessus de lui, et je l'ai emporté, non baptisé, à travers une forêt. J'ai peur dans les bois. Et ce qui m'épouvante le plus, ce qui me fait surtout pleurer, c'est que j'ai eu un enfant sans connaître d'homme.
« Mais peut-être que tu as été mariée, » hasarda Chatov.
« Tu m'amuses, Chatouchka, avec ta supposition. Peut-être bien qu'en effet j'ai eu un mari. Mais qu'importe, si c'est exactement comme si je n'en avais pas eu.
Tiens, voilà une énigme qui n'est pas difficile. Devine-la, » répondit-elle en riant.
« Où donc as-tu porté ton enfant ?»«
Je suis allée le jeter dans un étang, » soupira-t-elle.
Chatov me donna encore un coup de coude. « Mais si, par hasard, tu n'avais jamais eu d'enfant, si tout cela n'était que l'effet du délire, hein ?»
En entendant émettre cette conjecture, Mademoiselle Lebiatkine ne témoigna aucun étonnement.
« Tu me poses une question difficile, Chatouchka, » reprit-elle d'un air pensif. « Je ne te dirai rien à ce sujet. Peut-être bien n'ai-je pas eu d'enfant. À mon avis, cela n'intéresse que ta curiosité. Pour moi, peu importe. Je ne cesserai pas de le pleurer. Ne l'ai-je pas vu en songe ?»
Et de grosses larmes se montrèrent dans ses yeux.
« Chatouchka, Chatouchka, est-ce vrai que ta femme t'a abandonné ?»
continua-t-elle en lui mettant brusquement ses deux mains sur les épaules et en le considérant avec une expression de pitié.
« Ne te fâche pas, j'ai aussi mes peines. Sais-tu, Chatouchka, j'ai fait un rêve. Il revient vers moi, il m'appelle de la voix et du geste. « Ma petite chatte, » dit-il, « viens près de moi. » J'ai été un peu plus contente en l'entendant me nommer sa petite chatte. Il m'aime, je crois.
Peut-être qu'il viendra aussi en réalité,
murmura à demi-voix Chatov.
Non, Chatouchka, cela peut arriver en songe, mais pas en réalité. Tu connais la chanson. Je n'ai pas besoin d'un palais, je resterai dans cette humble retraite, où je ne cesserai jamais d'appeler les faveurs du Très-Haut sur ta tête. Oh, Chatouchka, Chatouchka, mon cher, pourquoi ne me demandes-tu jamais rien?
Parce que tu ne répondrais pas. Voilà pourquoi je m'abstiens de t'interroger.
Je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. Me mettant le couteau sur la gorge. Je ne dirai rien,
reprit vivement Marie Timofeyevna.
On peut me brûler vive. On peut me faire souffrir tous les tourments. Je me tairai. Les gens ne sauront rien.
« Tu vois bien, à chacun ses affaires, » observa Chatov d'un ton plus bas encore.
« Pourtant, si tu me le demandais, peut-être que je parlerais. Oui, peut-être, »
répéta-t-elle avec exaltation.
« Pourquoi ne m'interroges-tu pas? Questionne-moi, questionne-moi gentiment, Chatouchka. Peut-être que je te répondrai. Supplie-moi, Chatouchka, afin que je consente. Chatouchka, Chatouchka. »
Peine perdue, Chatouchka resta muet. Pendant une minute, le silence régna dans la chambre. Des larmes coulaient sur les joues fardées de Marie Timofeyevna. Elle avait oublié ses mains sur les épaules de Chatov, mais elle ne le regardait plus. Il se leva brusquement.
« Eh, qu'ai-je besoin de savoir tes affaires? Levez-vous donc !»
ajouta-t-il en s'adressant à moi, puis il tira violemment l'escabeau sur lequel j'étais assis et alla le reporter à son ancienne place.
Quand il reviendra, il ne faut pas qu'il se doute de notre visite. Maintenant, il est temps de partir.
Ah, tu parles encore de mon laquais ? Fit avec un rire subit Mademoiselle Lebiatkine.
Tu as peur ? Eh bien, adieu, bon visiteur.
Mais écoute une minute ce que je vais te dire. Tantôt, ce Nilitch est arrivé ici avec Filipov, le propriétaire, qui a une barbe rousse. Mon laquais était en train de me maltraiter. Le propriétaire l'a saisi par les cheveux et l'a traîné ainsi à travers la chambre. Le pauvre homme criait « Ce n'est pas ma faute, je souffre pour la faute d'un autre. » Tu ne saurais croire combien nous avons tous ri.
Hé, Timofeyevna, ce n'est pas un homme à barbe rousse.
C'est moi qui tantôt ai pris ton frère par les cheveux pour l'empêcher de te battre. Quant au propriétaire, il est venu faire une scène chez vous avant-hier. Tu as confondu.
Attends un peu, en effet, j'ai confondu. C'est peut-être bien toi.
Allons, à quoi bon discuter sur des vétilles? Que ce soit celui-ci ou celui-là qui l'ait tiré par le cheveu, pour lui, n'est-ce pas la même chose?
Dit-elle en riant.
Partons, dit Chatov qui me saisit soudain le bras. La grande porte vient de s'ouvrir. S'il nous trouve ici, il la rossera.
Nous n'avions pas encore eu le temps de monter l'escalier que, sous la porte cochère, se fit entendre un cri d'ivrogne, suivi de mille imprécations. Chatov me poussa dans son logement, dont il ferma la porte.
« Il faut que vous restiez ici une minute, si vous ne voulez pas qu'il y ait une histoire. Il crie comme un cochon de lait. Sans doute il aura encore bronché sur le seuil. Chaque fois il pique un plat ventre. »
Pourtant, les choses ne se passèrent pas sans histoire.